8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation, comme chaque semaine, avec un sujet largement passé sous silence. Que faire des émotions des enfants? Ça peut être la joie, la colère, la tristesse, l'angoisse. Les enfants savent nous montrer ce qu'ils éprouvent sans réellement comprendre eux-mêmes et mettre à distance leurs émotions. Alors à quoi servent les émotions dans les processus d'apprentissage? Certaines émotions peuvent-elles empêcher d'apprendre à l'école? Et si oui, comment reconnaître et gérer les émotions des enfants à la maison comme dans la salle de classe? Nous allons en discuter avec nos invités et bien sûr vos questions au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités. Édouard Gentaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie du développement à l'Université de Genève et vous avez publié « Comment les émotions viennent aux enfants » aux éditions Nathan cette année. Et vous êtes en liaison avec nous de Genève grâce aux moyens techniques de la radio-télévision suisse que nous remercions. Claudia Kespiyai, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice du réseau de crèches parentales Cap Enfant. Et puis en fin d'émission, ce sera la chronique du psychologue Ibrahima Girou à Dakar, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, il répondra à cette question, comment aller au-delà de l'orgueil de ses parents?
8 milliards de voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
Et tout de suite, je vous propose d'écouter les enfants et une émotion largement partagée, le stress à l'école.
Moi, quand je suis stressée, c'est quand j'ai peur de rater.
Ouais, parce que nos parents, ils nous forcent à avoir des bonnes notes et du coup, à cause d'eux, à chaque fois qu'on rate, on a peur.
Après, je suis pas sûre de moi et... J'ai pas envie de faire le contrôle.
Quand je suis trop stressée, j'ai une douleur à la gorge. J'ai presque envie de pleurer, comme si j'avais avalé quelque chose de travers.
Moi, j'ai plus envie d'aller à l'école parce que ça me stresse. J'ai peur de l'école.
Mais pourquoi t'as peur de l'école?
Parce qu'ils vont rigoler de moi.
Mais rigoler de quoi?
Et parce que je suis moche.
T'es pas moche? C'est parce que tu m'as dit que ta coiffure, tu l'aimais pas, donc c'est pour cela. Mais c'est beau!
Décris-nous alors ta coiffure, qu'est-ce que c'est?
C'est des tresses. Ma maman, elle, d'habitude, j'aime les perles.
Et à la place des perles, elle a mis des petits élastiques, c'est ça, de couleur?
Non, j'aime pas sans perles, c'est moche.
En fait, moi aussi, je suis stressée parce que là, j'ai pas fait mes devoirs. Du coup, je suis en train de les faire, mais je les ai pas terminés.
Et là, il est 19h.
Oui, je sais.
Il faut que j'enlève la peur de ma tête parce que sinon, ça va revenir dans l'école et je pourrai pas bien travailler. Et ça me stresse dans mon corps, dans mon ventre.
Voilà, il faut que j'enlève la peur dans mon corps. Hein. C'est une petite fille de 6 ans qui parle de ça, réaction au stress. C'est vraiment un mot que les enfants connaissent extrêmement bien dès leur plus jeune âge. Édouard Gentaz, qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages et par rapport à la définition, à la reconnaissance des émotions en général chez les enfants?
Alors, c'est très intéressant, c'est souvent des questions ou des points de vue que donnent les enfants, mais il faut juste situer quand même stress et émotion, c'est pas exactement la même chose. Le stress, on va dire que c'est quelque chose de très général, c'est une réaction multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments physiologiques qui vont être activés face à une situation, à un événement, plus ou moins, il peut être traumatisant, un accident faiblement traumatisant, par exemple, je sais pas, une grande, enfin, un conflit, ou alors un petit peu stressant avec un examen.
Enfin, c'est quand même de la peur.
Alors voilà, il y a une réaction de l'organisme, et puis dans cette réaction, ça peut amener à générer une émotion. Donc si vous voulez, le stress, c'est une réaction générale à cet événement, et puis parfois, ce stress va générer des émotions typiquement de peur ou d'anxiété.
Et c'est le mot qui a été employé.
Voilà. Donc vraiment, c'est donc stress. Donc il y a un événement extérieur, ça me fait stresser. L'événement pourrait être même interne. C'est-à-dire que moi-même, je peux me générer une situation, je peux imaginer une situation sans la vivre réellement qui va me provoquer tout un tas de réactions dans mon organisme. Et parmi les possibles, eh bien, il y a une émotion qui va être générée façon temporaire, et cette émotion générée va elle-même du coup être associée à tout un tas de modifications neurophysiologiques, et puis du coup il va avoir une réaction, une deuxième phase où je vais réagir, je vais me battre, je vais fuir, je vais travailler, je vais me concentrer, je vais faire autre chose.
Claudia Kespiyai, comment dans une crèche vous observez la manifestation des émotions chez les bébés ?
Il y a déjà beaucoup d'émotions aussi en crèche et les premières émotions, ce qu'on appelle les émotions primaires qui sont la joie, la peur, la tristesse, on les remarque dès les premiers jours puisque l'enfant est en adaptation et qu'il quitte parfois pour la première fois ses parents, et il doit s'adapter à un nouvel environnement, trouver de nouveaux repères, de nouveaux visages familiers, et être convaincu qu'il est dans un environnement qui répondra à ses besoins.
Par exemple, la tristesse de la séparation qui va se lire sur le visage des enfants quand on amène l'enfant à la crèche le matin.
Et qui va se lire sur le visage et puis qui va se transformer en pleurs.
En pleurs, oui.
Et qui est une bonne chose parce qu'il faut manifester cette émotion et il faut accueillir cette émotion. Et ça, c'est notre travail en crèche, accueillir l'émotion de l'enfant, mais aussi accueillir l'émotion de la maman ou du papa.
Et est-ce que toutes les émotions se manifestent dans toutes les cultures, Édouard Gentaz ? Chez les enfants.
Alors, tout dépend des catégories des émotions. Il y a plein de façons de faire des groupements d'émotions, des catégories d'émotions. Alors, par exemple, ma collègue là vient de parler des émotions primaires ou de base. Alors, celle-ci, par exemple, alors, il y a discussion, hein, mais elle serait autour de 5, 6, où il y a débat. Elle serait plutôt universelle, plutôt innée, c'est-à-dire qu'on aurait chaque humain aurait, avec des petite modularité, la même façon d'exprimer ses émotions fondamentales et on aurait la même capacité à les reconnaître indépendamment des cultures. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, ça a été...
Donc ça serait la joie, la colère...
Voilà. Il y a la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise. Et puis, vraiment, il y a la peur aussi, évidemment. Donc ça, il y a un caractère un peu universel, puisque si on présente des photos, des photographies ou des émotions qui sont exprimées par des visages, et puis je vais dans différentes cultures, eh bien, la plupart des gens les reconnaissent assez aisément. Et donc ça, c'est le caractère universel. Et puis le caractère inné, eh bien, les arguments, typiquement, c'est, par exemple, on va interroger... on va regarder comment les aveugles de naissance, qui n'ont jamais vu dans leur environnement de personnes qui expriment des émotions, des visages, comment eux, ils font avec leur visage. Et puis les chercheurs qui ont étudié ça, par exemple avec les sportifs, quand ils gagnent ou qu'ils perdent, ils montrent qu'ils expriment exactement de la même façon, avec leur visage, l'expression de joie ou de tristesse que s'ils sont que les voyants. Ce qui veut dire qu'on a une programmation pour ces émotions de base qui serait donc universelle et précablée. Après, il y a d'autres émotions, toutes les autres émotions, alors dites morales, sociales, épistémiques, esthétiques, tout ça, eh bien, il y a plein de façons de les catégoriser. Là, du coup, elles vont apparaître un petit peu plus tardivement. Et comme elles sont liées à des normes sociales, par exemple, vous voyez, si j'ai honte de quelque chose, d'un comportement, ou je culpabilise, ou voilà, c'est forcément par rapport à une règle ou une norme sociale. Donc là, on voit le poids de la culture qui va apparaître. Et donc, du coup, ce qui explique qu'elles arrivent un peu plus tardivement dans le développement.
Pas facile de lire la honte ou la culpabilité sur le visage, hein. Claudia Kespiyai, je vous ai vu, vous m'avez montré le ventre quand on a parlé des émotions chez les aveugles.
Oui, c'est ce que j'ai découvert aussi dans le livre de Monsieur Gentaz. C'est vous parler d'enfants in utero à 5 mois qui expriment des émotions, des pleurs, de tristesse ou de joie. Et ça, c'est impressionnant.
Alors oui, alors ça c'est vraiment des recherches, il y en a très peu, hein, parce que du coup il faut de l'échographie 4D, et des collègues ont montré que ce caractère précablé, on pouvait déjà l'observer chez un fœtus, et avec de l'imagerie. Alors ça mériterait d'être reproduit, confirmé, mais c'est assez logique en fait, puisqu'on le retrouve... même chez les aveugles de naissance, c'est précablé, donc il n'y a aucune raison que dès qu'il y a la maturation musculaire et au point, c'est assez logique que progressivement l'enfant in utero sache exprimer des émotions. En tout cas, il a la configuration faciale pour le faire.
En quelques mots, Édouard Gentaz, comment se développent les émotions au fil des âges, hein, chez les enfants? À partir de quel âge l'enfant découvre de nouvelles émotions plus complexes que la joie, la peur, la colère? Comment on arrive à des superpositions d'émotions plus fines?
Alors, ça va arriver très rapidement dès la crèche. Hein. C'est quelque chose qui se prend. Alors, il faut déjà imaginer que ça se construit et ça se développe lentement, c'est-à-dire dès les premières années, mais c'est pas tout à la naissance, évidemment. Ça va prendre du temps, quelques mois, quelques années. Ensuite, c'est quelque chose qui va s'affiner, se moduler. Les enfants, rapidement, à partir de 2-3 ans, vont éprouver au même moment deux émotions contradictoires. C'est-à-dire que je suis content de venir à la crèche parce que j'ai tous mes copains et je suis malheureux en même temps parce que j'ai quitté ma maison.
Oui, exactement.
Oui, donc, et tout un tas de... Bah, ils vont éprouver ça. Et puis, ils vont commencer à, petit à petit, avec l'explosion du langage, ça va radicalement changer la perspective. Ils vont pouvoir mettre des mots, exprimer bah, justement ces deux sentiments à la fois. Je suis content qu'on m'offre un cadeau, mais je trouve le cadeau nul. Voilà. Et ouais. Donc comment j'arrive à mixer tout ça?
Claudia,
voilà. Et là, du coup, voilà, ça va prendre du temps. Et en plus, il faut imaginer un développement pas du tout global de toutes les émotions. Là, la plupart des recherches montrent qu'il y a vraiment un pattern de développement qui est spécifique pour chaque type d'émotion. Par exemple, la joie, c'est vraiment quelque chose de très précoce, puis ça se développe, ça s'affine. Mais par exemple, la surprise, le dégoût, la tristesse, voilà, ça va arriver progressivement. Il y a pas un développement global de toutes les émotions, vous voyez, d'un coup. Chacune va prendre son temps.
Il y a une émotion qui est reliée à l'apprentissage, hein, Claudia Kespiyai, parce qu'à la crèche, les enfants apprennent beaucoup de choses. Hein, d'abord, à se respecter les uns les autres, à attendre, etc. À rentrer dans un cadre avec des horaires, et puis à découvrir plein de nouveaux savoirs. Sans être à l'école maternelle. Et là, c'est vrai que vous dites souvent, les enfants découvrent aussi une émotion qui est la fierté, en fait, ou parfois la culpabilité quand ils n'y arrivent pas.
Oui, alors ça, c'est déjà pour les plus grands chez nous. Donc, en général, c'est entre 2 et 3 ans. Ils vont chanter, par exemple, puisqu'on utilise beaucoup la musique chez nous. Il y a une petite fille qui s'est produite devant tout un groupe spontanément, qui était très fière, qui bombait le torse et redressait ses épaules parce qu'elle chantait devant un petit groupe. Donc, une fierté, et elle a dépassé ses peurs. On peut avoir aussi la culpabilité d'un enfant ou parce qu'il a pris le camion de son voisin et il sait très bien qu'il n'a pas à le faire. Mais enfin, il sait qu'il n'a pas à le faire quand il est chez nous âgé, c'est-à-dire proche des 3 ans.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous lui dites dans ces cas-là ?
Eh bien,
tu vois que ton camarade n'est pas content,
voilà,
qu'il est tout triste.
Il est triste. Regarde, là, tu as un autre camion et tu peux utiliser un autre camion. Mais souvent, les enfants font l'association du camion rouge avec l'enfant qui s'amuse tellement bien. Ils font une assimilation. On ne peut s'amuser qu'avec ce camion rouge parce que mon petit copain s'éclate tellement avec ce camion
donc
rouge.
Donc, je me fiche de le rendre malheureux. Je vais lui prendre son camion.
Et donc, je ne comprends pas que mon camion bleu à côté ne produise pas la même joie.
Ouais. Chez les adultes aussi, ça peut arriver.
le
rôle du doudou, de la peluche, ce que vous appelez, vous les professionnels de l'enfance, l'objet transitionnel, à quoi ça sert dans la gestion des émotions pour vous à la crèche, Claudia Kespiyai?
C'est extrêmement important parce que c'est une continuité de repères qui viennent de la maison et on a plusieurs repères au travers des différents sens. Le repère de l'olfaction, on n'en parle pas beaucoup, est extrêmement important. L'odeur est importante et elle apaise en fait. Donc c'est un lien avec la maison et l'enfant se rassure quand il est inquiet, quand il est angoissé ou quand il est triste. Il pense à sa maman ou à son papa et à ses parents et il va sentir cet objet transitionnel.
Son doudou qui sent forcément un peu la maison, peut-être l'odeur de la cuisine de sa maman,
voilà.
Que sais-je.
Ouais. Et pour lui, c'est un objet vraiment extrêmement important. Et d'ailleurs, quand il est un peu plus grand et qu'il voit et qu'il commence à rentrer dans l'empathie et qu'il voit un petit copain triste, il va lui proposer son propre doudou puisque pour lui, ça représente la réaction.
Ça ne peut pas marcher parce qu'il n'a pas la même odeur.
Il faut le doudou de l'autre.
Vous nous appelez, les voisins et les voisines, on parle des émotions de vos enfants ou de vos élèves au 33 7 64 45 51 41. On est en ligne avec une auditrice, maîtresse Bertie. Bonjour Bertie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à Yaoundé, au Cameroun. Vous êtes maman de 4 enfants, mais vous êtes aussi enseignante avec des élèves de 5-6 ans. C'est ça, ils sont au cours préparatoire ou au jardin d'enfants ?
Ils sont au cours préparatoire.
D'accord. Et alors, pourquoi vous vous intéressez aux émotions ? Comment vous incluez ça dans votre façon d'être avec les enfants ?
Effectivement, j'ai 4 enfants et puis ma deuxième fille affichait des comportements un peu atypiques. Du moins, elle se comportait différemment des autres. Uh-huh. Du coup, j'ai commencé à capter mon attention sur elle. J'ai compris qu'en fait, elle avait besoin d'attention. Uh-huh. Et pour attirer mon attention, elle faisait beaucoup de gaffes. Elle pleurait à contre-temps, elle jetait des choses. Du moins, elle avait des grosses colères. Uh-huh. Quand je me suis donc rapprochée d'elle, du moins, je me suis concentrée sur elle pour l'écouter sans négliger les autres enfants. J'ai compris qu'en fait, c'était sa façon à elle de, d'attirer mon attention.
Parce qu'elle manifestait des émotions, mais finalement à contre-temps, et des émotions de manière, à un moment qui n'était pas justifié, en fait, hein, si je comprends
Exactement.
Bien. Vous avez dit à Delphine au Standard, vous avez dit le problème pour les émotions, c'est la façon dont elles sont gérées dans les familles. Qu'est-ce que vous constatez, vous aussi, en tant que professionnelle de l'enfance, Bertie?
Quand je vois d'abord comment est-ce que moi j'ai grandi, c'est comme on n'avait pas le droit de ne pas être content. Par exemple, si on t'achète quelque chose, tu n'as pas le droit de dire « ne te plaît pas ». Tu dois accepter ce que tu as. Du moins, c'est un peu comme un problème culturel, d'après ma petite analyse.
Ouais.
Parce que j'ai des camarades qui ont grandi dans d'autres familles, qui par contre avaient le droit de dire « je ne suis pas content de si telle chose j'apprécie ». Ça, ils le disaient à leurs parents. Et puis, avec le temps, j'ai compris que ces personnes-là étaient un peu plus épanouies, parce qu'elles pouvaient dire ce qu'elles ressentaient. Alors, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit non, mes enfants ne vont pas vivre la même chose. Mes élèves que j'ai la grâce d'encadrer ne vont pas vivre la même chose. Par exemple, quand ma petite fille pleure, même si ce n'est pas pour une bonne raison, je me rapproche d'elle, je lui dis, Althea, tu pleures, ça veut dire que tu n'es pas contente, tu es fâchée. Là, je mets les mots sur l'émotion qu'elle exprime. Si elle me dit finalement pourquoi est-ce qu'elle est fâchée, je lui dis « Ok, tu es fâchée parce que j'ai acheté une jupe à ta sœur et à toi, je n'ai rien acheté. C'est pour ça que tu es fâchée. Tu as le droit de te fâcher, tu as le droit de dire ce que tu penses. Mais comprends que tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Tu as le droit de dire ce que tu penses, mais voilà comment ça se passe. Une autre fois, je vais acheter pour toi, je l'ai fait souvent, mais cette fois, ce n'est pas à toi. » Je ne vais pas t'obliger de sourire, mais tu vas accepter.
Oui,
et
elle...
puis, dans d'autres circonstances, quand c'est le contraire, je lui dis.
C'est intéressant, Bertie, parce que vous dites à votre petite fille, tu n'es pas obligée de sourire, alors que vous-même, vous avez tant de fois été obligée de sourire lorsque vous n'étiez pas forcément satisfaite. Vous nous avez dit aussi, hors micro, qu'il y a dans des familles, on interdit de pleurer. Ça vous semble contre-productif pour les enfants?
Oui. Il y a un adage chez nous ici qui dit « on ne pleure pas, c'est interdit ».
Oui, surtout les garçons.
Quand tu pleures, oui, un garçon qui pleure, c'est pas un garçon.
Bien sûr, bien sûr.
Ce sont des prototypes qu'on a collés comme ça. Mais c'est faux parce que pleurer, en fait, c'est pas mauvais. Tu extériorises ce que tu penses. Et tant que ce n'est pas extériorisé, le problème ne peut pas être résolu.
Merci à vous, en tout cas, Bertie, pour ce témoignage. Justement, j'aimerais vous faire réagir, Édouard Gentaz et Claudia Kespiyahi, parce que se passe-t-il dans ces familles où on essaye de contrôler les émotions, comme si on avait peur, finalement, qu'il y ait un débordement d'émotions?
Ce que dit Bertie, c'est tout à fait exact, puisqu'on sait qu'il y a un poids extrêmement fort de la culture et il y a des normes sociales. La façon dont on parle des émotions maintenant, là en 2023, c'était vraiment très différent. Alors selon les pays, plutôt les pays nordiques, en Europe par exemple, les pays nordiques ont très tôt pris la voie où on peut parler des émotions, du bien-être, c'est quelque chose qui est valorisé, alors que les pays plutôt du sud de l'Europe sont des pays où ça se fait pas de pleurer, on cache nos émotions, pas tout ça, parce que dans la culture, dans la science, dans tout un tas de domaines, les émotions, c'est le domaine de l'intime, sont séparés de la cognition et de la raison. Et donc, au travail, on doit mettre ses émotions de côté. À l'école, on doit mettre ses émotions de côté. En famille, on doit contrôler ses émotions. Toute la culture était faite pour qu'il y ait un contrôle, pour justement dire, attention, c'est séparé, ça vient bruiter le système. Et en plus, moi, je dois, en fonction de mon sexe et de mon âge, pas montrer que je suis triste, pleurer dans un film, ça se fait pas, ou des choses comme ça. Et puis, en 30, 40, 50 ans, ça a radicalement changé. Moi, pour vous dire, par exemple, là, à un moment dans le système scolaire français, il y a 10 ans, quand on demandait dans les écoles, est-ce que dans les jeunes classes de maternelle ou primaire, est-ce qu'on travaille sur les émotions et les apprentissages, ça ne les intéressait pas. Et puis maintenant, c'est le truc que tout le monde fait. Mais vraiment, en 10 ans, ça a radicalement changé. Quand vous interrogez les grands-parents, c'était des choses, on ne parle pas d'émotions, c'est quelque chose, c'est intime, ça doit rester secret, tu dois pouvoir te contrôler et on ne montre rien à l'extérieur. Vraiment, on voit une évolution massive sur l'ensemble, on voit bien le poids de la culture sur le fait que de est-ce qu'on les exprime et comment, ça n'empêche pas que chacun les vit intérieurement.
Bien sûr.
C'est-à-dire que même si je peux avoir peur et une tristesse, je ne le montre pas, mais intérieurement, j'ai les mêmes effets.
On peut les vivre intérieurement, d'autant mieux qu'on a appris à les nommer. Vous restez avec nous, Édouard Gentaz et Claudia Quespillay. On va voir quel est le rôle des émotions dans les apprentissages scolaires et préscolaires aussi, hein, comme à la crèche. Est-ce que la maîtrise des émotions aussi est reliée à une capacité intellectuelle, à une capacité à l'attention? On va en discuter ce matin de ces émotions, comment aider les enfants à mieux comprendre leurs émotions aussi pour mieux apprendre, vivre plus sereinement. Et bien sûr, vous pouvez poster vos messages ou nous appeler au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après le groupe britannique Ephemerals. Nous parlons éducation comme chaque semaine et aujourd'hui l'émission est consacrée aux émotions des enfants. On a vu en première partie de nos discussions comment elles sont indispensables à la construction affective des enfants, mais aussi comment elles peuvent parfois nuire aux apprentissages. On va en discuter plus en détail. Le monde des enfants, la suite de nos témoignages sur le stress, sur la peur, une émotion qui revient tout le temps dans les récits des enfants à l'école. Ils sont à Valenton, dans le Val-de-Marne. C'est Samy, 12 ans, Anne-Rosie, 10 ans, sa sœur Delicia, 6 ans. Et ils se sont confiés à Charlie Dupiot pour sa chronique « Le monde des enfants ».
RFI.
Le monde des enfants.
On discute entre nous, entre enfants.
Quand je suis stressée à cause de ma note, je compte les points avant. Je relis les trucs et les questions où je suis sûre d'avoir bon. Je compte les points, après je fais une note minimale. Ça me rassure.
Et c'est quoi tes notes, Samy, en moyenne?
Le premier trimestre, je crois que j'avais eu 13. Le deuxième, j'avais aussi 13. Et là, pour l'instant, j'ai 12. En fait, en 6e, je me rappelle, le premier trimestre, j'avais eu 15. Le deuxième, j'avais 16. Et le troisième, j'avais 14. Dès que j'ai eu 12, je me suis dit que c'était pas à la fond, quoi. Je me dis que ça veut dire que je suis devenue moins intelligent.
Là, ça t'émeut un petit peu. T'as des larmes aux yeux.
Un petit peu.
Est-ce que tu penses à ça et que ça te stresse?
Je me dis que, en fait, je vais pas bien arriver à mon travail. Et si j'arrive pas bien à mon travail, ma maîtresse, elle va me crier dessus.
Et toi, Samy, quand tu stresses, à qui tu penses? Est-ce que tu penses à quelqu'un?
À ma mère. Par exemple, quand j'ai une mauvaise note, je veux pas qu'elle soit déçue de moi. Mais elle est déçue de moi quand je rate.
Est-ce que c'est quelque chose qu'elle te dit ou est-ce que c'est quelque chose que tu imagines?
Que j'imagine. Parce que ma première note quand j'étais en 5e, c'était un 2 sur 20.
Un 2 sur 20? Dans quelle matière?
français. C'est une dictée, du coup. Je me rappelle, j'avais des réponses et j'étais bonne, mais à cause du stress, j'avais enlevé.
Tu avais effacé tes réponses?
Et du coup, j'ai réécrit d'autres trucs. Peut-être j'aurais pu au moins avoir la moyenne.
Qu'est-ce que ça veut dire le mot stress?
Le stress, c'est un sentiment. Tous les êtres humains ont le stress dans des situations. Par exemple, on t'a appelé pour que tu fais une chorégraphie avec d'autres personnes dans un concert, et dans le concert on te dit qu'ils sont 800 personnages à te voir, et ben tu vas être stressé parce que c'est beaucoup quand même 800. Et après, si tu fais un mauvais pas, ben peut-être que les gens vont se moquer de toi.
Parfois, après, on arrive à combattre le stress et on arrive à faire quand même, mais quand on est trop stressé, on n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire, quoi. Ben, en sixième, quand c'était les premiers jours qu'il y avait un exposé dès la semaine prochaine, j'ai exprès de parler vite, quoi. Parce que c'était nouveau pour moi. J'ai envie d'en finir vite.
Depuis quand est-ce que tu stresses à l'école, alors?
Depuis le CP. Je sais plus, dans quel cas j'ai vu un psychologue. Ça m'a un petit peu calmée. Là, maintenant, je suis plus moins stressée, un peu moins.
Moi, c'est quand j'étais à la maternelle, en petite section, ma mère, elle me déposait à l'école. Et du coup, moi, comme j'étais pas habituée, et j'arrêtais pas de pleurer dans la classe. Et aussi, il y avait plein de personnes que je connaissais pas du tout. Chaque matin, quand je me déposais, je pleurais.
Qui autour de vous stresse et vous dit qu'il stresse?
Mon père, quand il regarde le foot, il se stresse parce qu'il a peur qu'il gagne pas.
Et du coup, à chaque fois que son équipe de préférence, il est prêt de marquer un but et qu'il rate le but, et il est énervé. Et du coup, ça lui gâche son moment à lui parce qu'il n'est pas bien. Parce que normalement, quand on regarde un match, il faut être joyeux. Même si ton équipe, elle perd, il faut être fair play. Hein.
Parfois, elle est stressée, ma maman.
Elle se stresse quand le bébé pleure.
Et moi, je me demande comment elle a fait pour supporter 4 enfants. Et elle est stressée à chaque fois qu'il pleurait.
Est-ce que pour vous, le stress, c'est plutôt quelque chose qui concerne les adultes?
Adultes, on a plus de choses à faire dans la vie. Parce que nous, les enfants, on fait rien. Nous, on est des rois et reines, mais eux, ils font tout.
Pour moi, elle est de stress pour des sujets différents. Les enfants, ils stressent de ne pas décevoir les parents qui font tout pour nous. J'espère que quand je serai adulte, je serai plus endurcie et moins stressée. Il y a certaines choses qu'à cause du stress, je ne peux pas en profiter. Bah, par exemple... Quand j'aime bien dessiner ou jouer, par exemple, si à côté je dois me dire après je vais réviser, après j'ai ça à faire, après j'ai ça à faire, après j'ai ça à faire, je vais pas pouvoir profiter du truc.
Il faut que tu aies confiance en toi, parce que si tu te fais pas confiance, c'était comme si tu t'aimais pas toi-même. Moi j'ai appris à gérer le stress. Tu fais de la méditation, genre tu te poses et tu mets une musique à la télé qui est détend. Et après, tu t'allonges, tu essaies de penser à autre chose, genre tu fermes les yeux, c'est ça qui va te calmer. Bah moi, je fais ça, comme ça, je suis moins stressée.
Le monde des enfants, une série à retrouver en podcast pour écouter la parole des enfants sur des sujets très différents comme l'amour, l'argent, le travail, la vieillesse. Une série proposée par Charlie Dupiau. Nous sommes toujours avec nos invités, Édouard Gentaz, professeur de psychologie, Claudia Kespiyahi, fondatrice du réseau de crèches parentales Cap Enfant. Alors, on l'a bien dit, hein, Édouard Gentaz, au début de l'émission, dans ce mot stress, les enfants mettent en réalité plein d'émotions différentes dont ils ne connaissent pas toujours bien la signification, la peur, la honte, la culpabilité, mais on se rend bien compte tout de même dans certaines paroles et certains témoignages que notamment la peur peut bloquer pour donner les bonnes réponses au moment où il y a une interrogation à l'école, jusqu'à rayer la bonne réponse et à ne pas mettre de réponse ou à mettre autre chose. On sent bien que ces émotions fonctionnent un peu comme un brouillage dans le cerveau ou pas, Édouard Gentaz?
Alors, on a les deux, parce que c'est-à-dire que quand, dans une situation où, par exemple, j'ai un événement qui va générer chez moi, je lui attribue de la valeur, par exemple, une situation, la note, situation d'examen, il y a des enfants pour qui ça n'a pas de valeur, donc du coup, il n'y a pas d'effet, mais pour ceux pour qui ça a une valeur, c'est important d'avoir une bonne note, réussir à l'école, ou comme là, les enfants le témoignent, eh bien, du coup, ça va générer chez moi une émotion, typiquement de peur, et du coup, je vais avoir plusieurs façons de résoudre ce problème. Je peux mettre en œuvre des stratégies de régulation efficaces, efficientes, c'est-à-dire qui vont me permettre de diminuer l'intensité de l'émotion que je suis en train de vivre. Et puis, je peux aussi mettre en œuvre des stratégies qui sont pas efficaces, qui sont dites dysfonctionnelles et qui, là, du coup, vont m'empêcher de réduire l'intensité de cette émotion. Si vous voulez, si je vais, par exemple, en examen de maths, je suis hyper stressé. Il y en a qui arrivent bien à réguler leurs émotions. Par exemple, je sais pas, il y en a qui ont fait du sport juste avant, ils pensent à autre chose, ils visualisent une image positive, ils écoutent une musique, enfin, ils font des gestes, enfin, voyez, ils essayent de se mettre en état de pleine, enfin, de réflexion, pleine conscience, enfin, tout un tas de stratégies disponibles, alors suivant l'âge, hein, évidemment, et puis ça réduit l'intensité, et du coup, ils peuvent agir. Mais si, par exemple, on est dans une perspective de rumination, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je suis nul, et bah, du coup, je consomme toutes mes ressources attentionnel, et du coup j'ai un effet négatif sur mes performances.
Claudia Kespiyahi, on parlait de musique, ça permet aux enfants à la crèche de réguler les émotions ou de les exprimer pour les mettre à distance? Comment ça fonctionne chez vous?
Ça permet enfin, la musique peut avoir un côté très apaisant avec les berceuses, les comptines, peut avoir un côté excitant, en fait, dynamisant avec d'autres musiques qui sont gays. Et évidemment,
qui permettent de s'extérioriser.
Et
aussi,
qui permettent de s'extérioriser. Et on utilise, nous, beaucoup la musique et puis aussi des instruments de musique pour canaliser certaines émotions, comme par exemple la colère ou l'excitation, parce qu'on va manger et puis tout le monde veut aller avoir son assiette en même temps. Par exemple, on va prendre un petit tambour et puis on va taper d'abord très fort, très fort, très fort, et puis de plus en plus doucement. Et puis à la fin, on tape dessus comme si on était des petites fourmis, voilà, avec
ensuite,
des pattes de
tout petit. Tout le monde attend très sagement son assiette.
Et du coup, ça baisse la tension générale du groupe, et puis on est disponible pour ensuite aller manger ou faire une autre activité.
Je vous lis un message de Ridel qui a posté sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Ridel, qui est encadreur dans une école de soutien scolaire, il nous dit: « Moi, je me sens jamais très à l'aise face aux émotions de mes élèves, surtout lorsqu'ils manifestent un sentiment d'angoisse, de tristesse, de colère. Et pour remédier à cela, j'ai l'habitude de leur raconter une histoire comique dès le début du cours ou une autre au milieu de la leçon. J'essaie aussi de leur donner la parole régulièrement pour identifier leurs besoins, leurs envies, leurs sentiments. Et j'applique les mêmes méthodes aussi avec les élèves de CP1 et ça marche plus ou moins bien. » Petit côté détente aussi.
C'est formidable de raconter des histoires. Alors nous, on n'est pas encore au stade de blague, mais on va porter beaucoup d'attention aux enfants et notamment aux bébés. Et on va être dans l'interaction. Ça veut dire qu'on va nommer les émotions, on va être porteur de ces émotions pour que l'enfant apprenne à les identifier.
Oui. Et le rire, c'est pas mal aussi.
Hein. Et le rire, c'est formidable. Et voilà, un bébé qui vous sourit, ça déclenche beaucoup de joie.
Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On accueille Dylan qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Dylan.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, Dylan, chez 8 milliards de voisins. Vous aussi, vous êtes formateur dans un institut privé de soutien scolaire. Comment vous travaillez avec les émotions des enfants?
Je travaille avec le programme et j'utilise des images à forte charge émotionnelle, vous voyez. Des images à forte charge émotionnelle et parfois des stickers qui présentent les émotions universelles que nous présente Paul Ekman, c'est-à-dire la joie, la tristesse, le dégoût, la colère et bien d'autres. Donc, je me sers de ces émotions maintenant pour leur permettre de comprendre au fait déjà qui ils sont. Qu'ils puissent comprendre en réalité que autrui n'est pas autre personne que moi. Autrui est une personne qui, tout comme moi, qui, tout comme moi, ressent des émotions, ressent des sentiments, et qui peut me comprendre comme je peux aussi le comprendre. Et du coup, quand j'ai fini, quand je quitte de là, maintenant je leur permets en réalité de comprendre au fait la quintessence du cours.
Ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien, Dylan, vous travaillez avec vos élèves pour qu'ils comprennent mieux et qu'ils tiennent mieux compte des émotions des autres élèves, de leurs camarades.
Exactement. Il y a des enfants qui sont un peu frustrés, vous voyez. Par exemple, à la maison, les parents Ils ont, comme chez nous en Afrique, on a l'habitude de dresser nos enfants à travers le fouet. Et à la moindre erreur, on fouette l'enfant, on bat l'enfant. Du coup, ça fait en sorte que l'enfant est renfermé sur lui-même. Et maintenant, ça a une conséquence grave sur lui quand il est en classe, quand il est en cours. Il n'a pas la possibilité de s'ouvrir aux autres, il n'a pas la possibilité de répondre à certaines questions. Et du coup, il ne peut pas réellement avoir de mieux. Donc, je vais de là. Et j'ai eu réellement un cas particulier quand je travaillais à l'école avec certains enfants, surtout avec un enfant qui, il était tellement renfermé sur lui que il ne participait jamais au cours, même en cours de récréation, il n'avait pas la possibilité de s'épanouir avec les élèves. Et du coup, je me suis rapproché de lui, je me suis rapproché de ses parents, j'ai constaté qu'en réalité, il était beaucoup battu à la maison.
Merci en tout cas pour ce témoignage. C'est très intéressant, Dylan, parce qu'on comprend bien que la maltraitance des enfants conduit au verrouillage des émotions. Édouard Jantaz, ça nous amène finalement à l'essentiel de votre livre « Comment les émotions viennent aux enfants ». Vous expliquez pourquoi les compétences émotionnelles sont finalement la clé de leur épanouissement et de leur réussite scolaire.
Alors, une des clés, ça c'est pas la seule évidemment, mais c'est vrai que cette compétence émotionnelle, comme cette capacité à identifier, comprendre, voyez, réguler, et puis au niveau multisensoriel, hein, avec la voix, le son, le corps, le visage, voyez, toutes ces compétences, voilà, toutes ces façons dont on peut exprimer et comprendre ses émotions, plus je vais les maîtriser, eh bien, tout un tas de recherches montrent que ces compétences-là, elles sont fortement corrélées, associées à la réussite scolaire de la maternelle. Il y a tout un tas de recherches qui, à partir de 3-4 ans, jusqu'à l'université. Alors, il y a d'autres facteurs qui contribuent à la réussite scolaire, à la santé mentale, mais alors là, vraiment, c'est un résultat massif de la littérature scientifique. Il y a une corrélation significative, vraiment, entre ces deux types de compétences.
Quand vous parlez de maîtrise des émotions, ça veut dire qu'un enfant, il sait ce qu'il est en train de ressentir, il ne verrouille pas ses émotions, il les met à distance tranquillement, c'est un peu ça ?
Alors, il y a tout un tas de compétences. Par exemple, ça va être d'être capable de reconnaître sur les visages les émotions, sur les différentes sons de la langue, quand est-ce qu'il y a une émotion positive ou négative. Comprendre les causes d'une émotion ressentie chez quelqu'un, les conséquences que ça va avoir, la capacité à les réguler. Vous voyez, toutes ces compétences-là, une fois que je les mets en œuvre, on a plus ou moins de facilité aussi avec ça. Ça s'entraîne, mais voilà, à la sortie, on a toujours des différences entre les gens. Eh bien, ces compétences-là vont pouvoir aider l'enfant à réussir à l'école de façon plus efficace parce qu'il va savoir aller demander à la bonne personne de l'aide, mettre en place une régulation efficace, comprendre, avoir le vocabulaire adéquat pour exprimer son émotion, interagir avec ses pairs de façon optimum et du coup, mieux réussir à toutes ces tâches scolaires.
Je voudrais vous lire une question d'une auditrice, Claudia Kespiyai, Ninelle, qui est à Yaoundé, et qui pose cette question. Comment gérer les émotions des enfants si l'on ne sait pas, soi-même, en tant que mère, gérer les siennes ? Vous avez des interactions avec les parents qui amènent leurs enfants à la crèche.
Ouais. C'est vrai que ça, nous sommes des exemples en tant qu'adultes pour montrer aux enfants comment gérer les émotions. C'est un apprentissage et dans une crèche, en fait, le 0-3 ans, c'est le moment où l'enfant apprend à vivre ses émotions, apprend à les identifier et apprend à les accueillir. Donc, il y a tout un accompagnement de verbalisation, mettre des mots sur ses émotions, accueillir l'émotion. Si on accueille l'émotion et si on met des mots, on réduit le temps et la possibilité de débordement d'émotion. Ensuite, c'est détourner l'attention sur autre chose. S'il s'agit d'une colère, eh bien, montrer autre chose, détourner l'attention de l'enfant pour qu'il ait envie de jouer à autre chose. Ou si c'est une tristesse,
ne pas ruminer sa propre émotion, comme
pas
le disait Édouard Jantaz.
Voilà, parce que c'est cette période-là où l'émotion elle se vit de toute façon, mais elle est régulatrice, elle permet de générer les relations avec les autres, elle régit les comportements avec les autres, l'adaptation du comportement de l'enfant avec l'autre, ça va générer l'empathie. Il faut apprendre à vivre ses émotions. Et cette période-là, elle est absolument cruciale.
J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que l'usage des écrans a des conséquences sur la gestion des émotions chez les enfants, pour vous ?
Bien oui, et on le voit très concrètement en crèche, puisque en général, les enfants sont devant des écrans seuls. Déjà, entre 0 et 3 ans, c'est absolument déconseillé. Et quand bien même l'enfant, puisqu'il voit son père ou sa mère avec un téléphone, il va trouver cet écran très intéressant et il va avoir quand même des interactions avec les écrans. Ce qui est important, c'est que l'adulte reste avec l'enfant et agisse dans l'interaction. Et là, l'adulte peut nommer les émotions et accompagne l'enfant. Ce qui compte pour l'enfant, c'est les interactions avec soit ses pairs, soit avec des adultes pour apprendre justement, imiter, apprendre de l'autre.
Et d'où l'importance de la parole. Merci beaucoup Claudia Kespiyai. Vous êtes fondatrice du réseau de crèches parentales Cap Enfant. Merci d'être venue chez 8 milliards de voisins.
Merci Emmanuel.
Merci à vous Édouard Gentaz, professeur de psychologie du développement à l'Université de Genève. Vous avez publié ce livre où on apprend énormément de choses, comment les émotions viennent aux enfants. Et c'est publié chez Nathan. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Dans quelques instants, la chronique Parents-enfants d'ici et d'ailleurs, avec le psychologue sénégalais Ibrahima Girou, à retrouver juste après le groupe très multiculturel Sage comme des sauvages.
Sans les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots. L'émotion, sans les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots. L'émotion, sans les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots. L'émotion, sans les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots. L'émotion
inattendue,
inattendue,
empêchée,
inattendue, inattendue,
relevée,
relevée,
inattendue,
inattendue,
empêchée,
empêchée,
inattendue,
inattendue,
relevée,
relevée,
froide,
froide,
si froide,
si froide,
riche,
riche, riche,
mais froide.
Mais riche.
Sans les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots. L'émotion, sans les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots. L'émotion, sans les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots. L'émotion, sans les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots. L'émotion.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. C'est la chronique du psychologue Ibrahima Girou à Dakar. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel.
Aujourd'hui, comment aller au-delà de l'orgueil de ses parents ? Parfois, on le sait, les parents ont tort, mais il leur est difficile, évidemment, de reconnaître leurs erreurs en tant que parents. Et vous nous dites, Ibrahima, qu'il y a des choses que l'on peut faire quand on est enfant, jeune enfant, adolescent, pour ne pas envenimer la situation. Que voulez-vous dire ?
Tout à fait, Emmanuel. On va prendre uniquement des cas concrets. Le métier de parent n'a jamais demandé autant de connaissances qu'aujourd'hui, puisqu'on est souvent qu'à deux pour éduquer ses enfants, voire même monoparents. Si le parent est prétentieux et pense être le seul à connaître son enfant, la réalité est tout autre. Les enfants connaissent parfois plus et souvent disent moins. Et on risque de vivre une inversion des attitudes. On voit dans beaucoup de cas que le parent qui se trompe fonctionne en apparence selon deux règles. La règle 1, le parent a toujours raison. Et la deuxième règle, si le parent se trompe, alors on revient à la règle 1. Et les enfants semblent, Emmanuel, accepter cet arbitraire, pour ne pas dire cette dictature du parent. Dans certains cas, on tombe franchement dans le domaine de la tyrannie.
Oui, enfin parfois, ils n'ont pas le choix non plus hein, d'accepter. Ces dysfonctionnements existent, en effet, mais alors qu'est-ce que l'enfant peut faire dans ces cas pour se protéger de l'orgueil de leurs parents ?
Disons, pour se protéger et protéger aussi le parent des méfaits de son propre orgueil, car ces méfaits ne touchent pas que l'enfant Emmanuel, en tant qu'enfant, on peut raconter à son parent une histoire similaire à ce que nous sommes en train de vivre et lui demander ce qu'il en pense. Le parent va bien entendu faire le lien avec son attitude. Il ou elle pourrait éviter la conversation. Mais ne lâchez pas votre volonté d'avoir la discussion sans chercher à harceler vos parents. Donc ne cherchez pas à leur démontrer qu'ils ont tort et que vous auriez raison. Votre objectif est de montrer qu'on peut voir les choses différemment.
On fait exactement ce qu'on leur reproche finalement si on cherche à leur montrer qu'ils ont tort et qu'on est soi-même bloqué dans sa position.
Exactement, Emmanuel. Et on ne change pas l'histoire en réalité. On remplacerait une tyrannie par une autre. Et je ne vois pas pourquoi les parents devraient accepter. Ensuite, les enfants peuvent enseigner de bonnes pratiques aux parents. Cela est bien connu. Pour cela, il ne faut pas s'arrêter aux premières impressions négatives que les parents peuvent donner. Au contraire, il faut apporter la bonne parole et la donner aux parents de la manière la plus respectueuse et pédagogue qui soit. Une fois que cela est fait, n'attendez pas de changement, n'attendez pas de réaction positive tout de suite chez le parent. Oui, ça prend du temps. Les parents, Emmanuel, ne doivent pas changer pour nous. Ils doivent changer pour se sentir mieux et meilleur qu'avant. Ensuite, ils seront fiers que leur enfant ait su contribuer à leur faire changer d'attitude sans leur faire perdre la face.
La dictature des parents, donc comment réformer la dictature des parents ? L'orgueil est une façade des parents, finalement, c'est ce que vous nous dites. Est-ce que les enfants ont toujours la sagesse que vous partagez en ce moment ?
Ouais, bonne question, Emmanuel. Malheureusement, pas toujours. Rarement même, on peut le dire. Les enfants naviguent entre deux extrêmes. Soit ils concluent et se résignent à l'idée que le parent est un tyran, ou bien ils rentrent dans un conflit frontal avec leurs parents. Dans ces deux cas, il n'y a jamais de gagnant, il n'y a que des perdants, Emmanuel.
C'est pas parce que l'on est un enfant, un adolescent, que l'on ne peut pas guider ses parents. La question de la semaine pour les parents qui nous écoutent, et peut-être des adolescents, des jeunes aussi.
Emmanuel, le proverbe africain raconte que la vérité est une aiguille perdue. Un adulte peut la retrouver, mais aussi un enfant. Alors pourquoi refuser l'éclairage des enfants alors que les problèmes de la vie peuvent aveugler les parents ?
À méditer. Merci Ibrahima Giroud. On retrouve tous vos conseils, vos analyses sur les relations parents-enfants d'ici et d'ailleurs. À retrouver en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement avec ce titre-là. Et merci à RFI Mandinkan Foulfoulde qui nous accueillait dans son studio à Dakar. Aujourd'hui, Hadji Diagne était à la technique. Merci à vous Ibrahima.
Merci Emmanuel.
Et merci à toute l'équipe de 8 milliards, Juliette Brault, Delphine de Dianouz, Divine Bertou, Romain Dubrac. Nos émissions sont à réécouter quand ça vous plaît en podcast. La semaine prochaine, l'équipe de 8 milliards de voisins va prendre quelques jours de repos et nous vous proposons une sélection de nos meilleures émissions. Mais bien sûr, d'ici là, on reste en contact sur WhatsApp. Vous pouvez à tout moment poster vos commentaires au 33 7 64 45 51 41 et sur nos réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook. Dans quelques instants, le journal sur RFI.